Une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot soit prononcé.
Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born.
En fait, on envisage la possibilité de se faire insulter, de se faire frapper, de se faire humilier en public.
I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive.
Women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
Bonjour, bienvenue à Reine des Terres, le podcast qui décortique le système patriarcal et qui tente d'y survivre. Aujourd'hui, on va parler des princesses Disney et comment est-ce que ces modèles qu'on transmet aux enfants transmettent-ils des valeurs plus ou moins féministes? Aujourd'hui, je suis avec Julie.
Bonjour.
Qui es-tu, Julie?
Alors moi, je suis étudiante en cinéma d'animation 3D et j'adore Disney, évidemment. Et du coup, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Voilà.
Trop bien. Alors du coup, on va essayer de parler de toutes les princesses Disney, mais aussi on va essayer un petit peu de faire des parallèles avec les héroïnes féminines Disney, même si elles sont pas encore connues comme telles. Mais on va pas vraiment parler des reboots et on va aussi, on prévient tout de suite, beaucoup spoiler. Donc voilà, si vous n'avez pas vu tous les films, on ne conseille pas forcément d'écouter. Et let's go. Déjà, on va se centrer sur les princesses de la première génération, donc Blanche-Neige, Aurore et Cendrillon. C'est des princesses qui donc ont été qui sont sorties, enfin c'est des films du coup de princesses qui sont sortis dans les années 40-60. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces princesses principalement?
Alors déjà, ces princesses, elles sont assez prisonnières de leur rôle et de leurs conditions. Elles ont beaucoup d'aide de l'extérieur, des animaux et effectivement, elles sont toujours sauvée par un prince en quelque sorte, et c'est quelque chose qui revient souvent dans les critiques des films Disney, parce que ça rend les princesses très vulnérables et faibles, qui sont dans un rôle de victimes, qui ont besoin forcément d'être sauvées, alors que ce sont des personnes qui pourraient tout à fait se sauver elles-mêmes.
Exactement. Et en fait, il y a beaucoup de représentations d'elles en train de faire les tâches ménagères parce qu'on leur a demandé, ou en tout cas qu'elles se sont dit, bah il faut les faire. Enfin, il n'y a pas du tout de remise en cause et il n'y a pas tant de personnalité dans ces princesses-là. Elles sont comme prisonnières de ce qu'on attend d'une femme à l'époque. Donc, par exemple, dans Blanche-Neige, c'est les nains en fait qui, en une certaine manière, l'emprisonnent dans son rôle de ménagère. Dans Cendrillon, c'est la marâtre et dans La Belle au Bois Dormant, c'est les fées en fait qui emprisonnent Aurore dans son rôle de faire le ménage, être la bonne princesse à marier quoi. Donc clairement, il n'y a vraiment pas du tout de remise en cause de leur rôle par ces princesses-là. Et le fameux livre ouvert au début, ça, ça a été très présent dans les vieux Disney.
Ouais, et ça montre aussi que ce sont des films qui sont inspirés de contes de fées, qui revisitent des contes de fées. Et en fait, c'est là aussi que ça peut un peu dédouaner Disney, dans le sens où ce sont des histoires qui ont déjà été racontées avant et qui sont telles quelles... déjà sous cette forme-là, avec des princesses qui ont besoin de quelqu'un pour être sauvées.
C'est ça, exactement. Et en plus, il faut aussi noter qu'au final, on parle beaucoup de... Par exemple, La Belle au Bois Dormant, c'est censé être son film. Mais en fait, elle n'a que 18 lignes de texte. Et en fait, elles sont plongées dans un coma, donc Aurore et Blanche-Neige, et sauvées par un prince. Et d'une certaine manière, on peut pousser l'analyse en disant que c'est grâce au prince qu'elles sont sauvées et qu'en fait, elles ont été entre guillemets perverties par la pomme pour Blanche-Neige et par le fuseau,
ouais.
par Aurore. Et du coup, là, c'était entre guillemets la mauvaise tentation, mais le prince est la bonne tentation parce que le prince, c'est égal au mariage, ouais. À être en couple et tout ça. Et c'est comme si en fait, elles avaient été impures en se piquant le doigt et en prenant la pomme. Et que du coup, grâce au prince, elles se deviennent pures et tout. Donc, c'est vraiment une sorte de métaphore, en fait, de ce qu'on attend de la femme pour l'époque.
C'est que c'est des modèles, en fait. À l'époque aussi, c'était des modèles pour les enfants, pour les jeunes filles. Et même, ça me fait penser que Blanche-Neige, du coup, bah, sa principale activité dans le film, c'est de faire le ménage, tout comme Cendrillon au début du film. Et c'est ça qu'on attendait d'une femme aussi à l'époque, c'est de garder le foyer, de s'occuper de son mari, d'être là pour s'occuper des tâches et de pas travailler, quoi. C'est ça son activité principale.
Mmh, tout à fait. Et aussi, on peut revenir du coup sur le prince. Bon, déjà, il n'a pas vraiment de personnalité aussi, genre surtout dans Blanche-Neige. Il n'a pas de prénom. Il a eu un prénom après donné par des fans, mais dans le film, à aucun moment, il est nommé. Et il y a juste du coup La Belle au bois dormant qui a le prince qui est nommé. Et je crois que dans Cendrillon, il ne parle pas et qu'il n'a pas de prénom non plus. Mm-hmm. Donc vraiment, ouais. ça fait vraiment le prince charmant et hop, c'est bon, quoi.
C'est ça.
Et surtout qu'en soi, c'est le bisou qui veut dire en couple. Et il n'y a pas du tout de consentement. Enfin, genre, quand le prince embrasse Aurore ou Blanche-Neige ou Cendrillon, bah, ça va très vite.
Ouais.
Et au final, il n'y a même pas aussi de connaissance d'eux-mêmes. Enfin, il n'y a pas de moment où ils apprennent à se connaître, quoi. C'est très rapide.
Puis il y a ce truc de l'idéalisation du conte de fées, de l'amour au premier regard avec Cendrillon qui, rien qu'en touchant le prince, en le voyant, il y a cet amour qui se crée. Pareil pour Aurore et pour Blanche-Neige. J'ai l'impression que c'est plus dans la chanson qu'eux, ils vont se rejoindre parce qu'ils ont la même chanson, etc. Et ça, c'est vraiment l'idéalisation de ce qu'est l'amour parfait, alors qu'au final, l'amour, c'est censé se construire et prendre le temps, etc.
C'est ça. Donc en fait, ça montre vraiment qu'il faut à tout prix être en couple, quitte à presque même pas du tout parler en fait avec son partenaire. C'est quand même grave, quoi. Et la beauté aussi est synonyme de discorde et de jalousie. Enfin, quand même, l'élément qui pousse dans Blanche-Neige la reine à être méchante, c'est le fait que du coup sa belle-fille est plus belle qu'elle. Et en plus, c'est le regard de l'homme masculin, le miroir, qui lui dit que c'est elle la plus belle. Donc voilà, ouais. C'est pas top. Et aussi, pareil, dans Cendrillon, c'est la marâtre. On dit qu'elle est follement jalouse du charme et de la beauté de Cendrillon au début. Donc c'est vraiment les discordes en fait des méchantes, ça vient d'une jalousie de la beauté, quoi. C'est grave aussi.
Puis c'est une discorde toujours entre femmes du coup. Mm-hmm. Et même les sœurs de Cendrillon sont montrées de manière très très négative.
Mm-hmm.
C'est des personnes totalement mauvaises, quoi. Il n'y a pas de juste mesure. C'est des personnes, on les voit, on sait que c'est qu'elles sont faites, qu'elles vont faire du mal, quoi. Et ça, c'est aussi un petit peu problématique, parce que bon...
Il n'y a pas de sororité, quoi.
Exactement.
Il n'y a vraiment pas de sororité. Les femmes sont soit méchantes, soit très gentilles, soit très douces. Et du coup, il y a vraiment, notamment entre les sœurs de Cendrillon, il n'y a pas du tout de soutien, quoi.
Ouais.
C'est vraiment, elles se détestent.
Même entre elles, ouais, c'est vrai.
C'est ça. Et il n'y a pas du tout de rédemption. Alors que dans les contes origines, Cendrillon, il y a des rédemptions pour les deux sœurs qui s'excusent et tout. Là, dans le Disney, pas du tout, quoi. Elles sont, en plus de dessinées de manière très caricaturée, les dessins, enfin tu vois, elles ont des traits aussi très très larges et tout. Elles chantent mal et tout, on compare avec Cendrillon qui chante bien, enfin on veut vraiment les diaboliser jusqu'au bout,
c'est
quoi.
Ça, ouais, c'est ça, hein.
Et
elles sont vraiment, pas belles, ouais. Elles sont méchantes,
voilà. C'est ça,
elles se poussent,
c'est ça. Donc vraiment, c'est, puis aussi il y a un truc qui est notable aussi dans les vieux Disney, c'est que la place des animaux était très importante. Et il y a beaucoup de Mickey Mousing, ça veut dire que c'est une technique, le Mickey Mousing, qui permet de souligner chaque événement à l'aide de la bande sonore.
Ouais.
Et en fait, il y a beaucoup de scènes très gaguesques dans Cendrillon, Blanche-Neige et un peu La Belle au bois dormant aussi, où en fait, on voit des animaux qui font des petits gags, quoi, et c'est avec la musique derrière. Donc c'est comme si c'était eux les personnages comiques.
Ouais.
Ça va changer ça après dans les autres Disney. Et là, derrière, la princesse, elle n'a pas de personnalité, elle est juste là pour être la princesse, quoi.
Ouais.
C'est juste les autres derrière qui font le film, comme le roi aussi, le père du prince dans Cendrillon avec son
c'est
conseiller.
Vrai. Et puis, même dans Aurore, le roi, il apparaît énormément.
C'est ça.
Et dans Cendrillon, c'est vrai qu'avec les souris qui vont, par exemple, pourchasser les perles au sol, etc., c'est des moments juste pour sortir de l'histoire et plus se concentrer sur le personnage
c'est ça.
Qui vit l'histoire.
Exactement. Et après, dans l'animation, il y a beaucoup de gestes doux, d'une voix guirette.
Les personnages sont forcément représentés aussi comme des personnes assez vulnérables. Leur position, et d'ailleurs, je sais qu'à Disneyland Paris, c'est comme ça qu'on apprend aux personnages à être représentés, c'est qu'elles sont très très légères, gracieuses, élégantes, et ça montre une certaine fragilité, une certaine douceur. Elles vont toujours avoir les doigts un petit peu écartés, qui flottent légèrement pour faire des petits mouvements quand elles dansent avec les animaux, par exemple.
C'est ça.
Et ça, c'est encore une fois pour appuyer le fait que ce sont des personnages... un peu victimes de leur situation malheureuse, qui ont besoin de quelqu'un pour en être sortis. Et à chaque fois, c'est donc le prince charmant, le fameux homme sauveur qui va venir les
aider. C'est ça. Et surtout qu'en fait, cette douceur, c'est une sorte de prétexte pour les exclure de la violence. C'est comme si elles étaient en position d'attente et elles sont dociles. Et du coup, c'est l'homme en fait qui a le droit d'avoir cette violence et cette rébellion. Et du coup, ce côté sauveur, enfin, elles peuvent pas sauver parce que elles sont douces et dociles et en attente. Et du coup, elles peuvent pas. On leur dit, bah non, c'est pas possible qu'elles se rebellent parce qu'elles sont trop douces. Donc c'est vraiment une sorte de d'excuse en fait, d'une certaine manière, pour exclure les femmes de la violence, notamment les princesses Disney, quoi.
Ouais. Et puis du coup, à la fin des films, en général, il y a le baiser forcé. Donc le baiser, pendant que le personnage féminin est endormi, la princesse est endormie, l'homme qui va venir la sauver en lui apportant le baiser d'amour sincère, qui aujourd'hui est très controversé car forcément c'est une absence totale de consentement. Embrasser quelqu'un qui est endormi, c'est pas faisable, quoi. C'est impossible. On peut pas faire ça.
Exactement. Wendy, en fait, elle a été inspirée de Cendrillon.
Ouais.
Et du coup, Wendy, c'est intéressant parce que c'est pas une princesse, mais pourtant, elle a quand même été inspirée par une autre princesse.
Ouais.
Et elle a ce côté aussi, encore une fois, très doux, très docile, très dans le care aussi, vraiment dans l'empathie avec les autres. Elle est très douce et elle suit beaucoup Peter.
Puis le but de Wendy dans l'histoire, c'est d'apprendre à grandir. Et dans l'histoire, ce qu'on voit d'elle, c'est qu'elle tombe amoureuse de Peter. Alors que d'autres personnages, par exemple les sirènes, vont essayer de l'en empêcher avec une jalousie assez dure à voir entre filles.
C'est ça. Il y a encore une fois une absence totale de soutien entre filles. Quoi.
Voilà.
Vraiment.
Et son but à elle, c'est d'être une bonne maman, de devenir une adulte accomplie, donc en s'occupant des enfants perdus et en leur montrant ce qu'est une vraie bonne maman, quoi.
C'est ça. En fait, leurs buts sont très patriarcaux et genrés. Enfin, c'est soit être une bonne maman, soit se marier. Tout de suite, on fait le ménage, on cherche le prince. Enfin, il n'y a vraiment pas du tout d'autres rêves, quoi.
C'est ça.
Un jour viendra, je partirai. Je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Je cherche en ma mémoire qui je suis pour savoir perdu dans ses rêves.
Alors maintenant, on va parler du coup de la deuxième génération. Donc cette génération, elle comprend beaucoup de princesses Disney. À ce moment-là, c'était un peu l'âge d'or de Disney. Ils faisaient beaucoup de films qui, encore une fois, marquent aujourd'hui notre époque. Il y a beaucoup de remakes, d'ailleurs. Donc, il y a Ariel, Belle, Jasmine dans Aladdin, Pocahontas et Mulan. Ariel, c'est un peu le film qui a relancé d'ailleurs le studio parce que Walt Disney est mort en 66, il y a eu une période un peu sombre à ce moment-là, et en 89 il y a eu La Petite Sirène, et à ce moment-là on sent que Ariel, c'est pas le prince, son objectif c'est de voir autre chose que son monde. Ça a un peu changé quand même par rapport aux années 60-40. Là, cette fois, la princesse, elle veut voir autre chose, elle se demande mais il n'y a pas autre chose derrière ce monde, enfin, elle se pose des questions, elle est un peu plus curieuse, elle a plus de personnalité en fait.
Par rapport aux dernières princesses en date, c'est vrai que le dernier film de princesse avait été je sais plus en quelle année, mais bien avant. Et du coup, c'était vraiment une relance parce qu'il reprenait le principe des princesses Disney. Mais dans les années 90, effectivement, les valeurs avaient changé et les choses avaient évolué. Donc, La Petite Sirène, bon, forcément, il y a des choses à redire quand même sur son personnage. Déjà, rien qu'avec ses sœurs. Dès le début du film, on la voit avec ses sœurs, mais... on n'a plus forcément besoin d'elle parce qu'encore une fois, c'est une histoire qui est inspirée d'une histoire de conte de fées. Donc, une histoire qui existe depuis longtemps déjà. Et ses sœurs, dans les histoires d'origine, elles étaient assez présentes. Elles avaient un rôle un peu primordial dans l'histoire car c'est elles qui venaient en aide à leurs sœurs.
C'est
ça. Dans cette histoire-là, il n'y a plus vraiment de sororité. Et encore, là, c'est vraiment entre sœurs, donc ça devrait être encore plus présent. Alors qu'en plus, elle en a plusieurs. Et c'est totalement absent.
C'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau en fait qu'on voudrait en termes de féminisme parce que c'est vrai qu'on a des sœurs, elles sont pas méchantes, mais elles apparaissent juste au début en tant que on est pareil, mais notre sœur elle est différente quoi. C'est juste pour montrer que Ariel n'est pas comme ses sœurs en fait, qu'elles sont là les sœurs. Et surtout qu'en soi, Ariel, elle tombe amoureuse d'un gars qu'elle voit deux secondes. Et là, elle veut tout quitter, tout plaquer pour aller le voir.
C'est ça, c'est qu'elle sacrifie tout pour l'amour d'un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle a juste vu de loin sur un bateau, qu'elle a trouvé beau, probablement, peut-être sympathique. Et donc, elle veut abandonner tout ce qu'elle possède, donc sa queue, ses sœurs, son père, etc., tout son royaume, pour pouvoir retrouver cet homme. Et forcément, ça a à la fois une valeur de liberté, car c'est une femme indépendante, libre, qui va avancer vers son objectif. Mais forcément, là, son objectif est motivé par un homme. Donc bon, on peut se poser des questions. Et puis, il y a beaucoup cette image du père aussi.
Oui,
qui est quand même contre ce souhait et donc qui va avoir des actes assez violents par rapport à sa fille en détruisant toute sa caverne aux merveilles notamment. Et bon, après là, c'est vraiment dénoncé, donc on peut comprendre que Disney ne met pas ça en valeur, c'est pas quelque chose qu'ils encouragent. Et forcément, le voir à l'écran, c'est assez fort, quoi.
Oui, en fait, on sent qu'ils ont essayé de développer une relation père-fille, de montrer ça en avant par rapport aux autres relations, en fait, entre les parents et l'enfant, donc les autres princesses. Bah, littéralement, Blanche-Neige, tu vois, entre sa belle-mère et elle, il n'y a pas du tout de relation, à part juste de la jalousie, mais on ne les voit pas interagir ensemble, quoi. Et là, du coup, on voit qu'il y a une sorte de petite rédemption, du coup, de la part du père. Parce que il accepte sa fille, donc il y a une petite relation qui est créée, quoi. Mais ça reste la relation entre le prince et Ariel qui est mise en avant. Encore une fois, les sidekicks aussi très importants. Mm-hmm. Et surtout que Ariel, elle passe du monde patriarcal de son père au monde patriarcal avec son mari. Mm. Enfin, elle le séduit sans sa voix, avec son corps. Du coup, il y a une chanson, c'est la sorcière qui lui dit il faut séduire un homme avec son corps et tout machin. Ça fait un peu, quand on s'analyse, on a ce qu'on attend d'une femme, c'est que ce soit une jolie poupée qui parle pas, quoi.
C'est ça.
Donc, ce que est Ariel, au final, pour séduire le prince. Et en plus, tu sais, dans le conte original, donc elle finit pas avec le prince, c'est une autre princesse, et le prince est séduit par une autre princesse qui parle. Mm. Mais là, c'est la sorcière qui ensorcelle littéralement le prince grâce à la voix d'Ariel.
Parce qu'elle voit que le prince est justement en train de tomber amoureux d'Ariel et donc veut empêcher ça.
C'est ça.
Et donc, c'est vrai qu'il tombe amoureux d'une femme qui ne parle pas, qu'il a trouvée au bord de la plage, c'est assez... ça fait se poser des questions, c'est vrai.
Et de puis... sa voix aussi, parce que tu vois, dès que la sorcière arrive avec sa voix, ça y est, il passe à la sorcière. Ouais, donc on n'aime pas une femme que parce qu'il y a sa voix qui chante, quoi. Ouais. Donc ils ne parlent pas tant que ça, en fait, ensemble.
Ouais.
Mm-mm.
C'est un cœur d'artichaut, hein, le prince. Hein. mais c'est vrai que même le personnage d'Ariel... ça fait un peu écho aux crises d'ado, parce que il y a cette idée de vouloir être libre, de s'émanciper de ses parents et d'être persuadé que ce qu'on veut c'est la bonne chose à poursuivre, et ça a un peu un sentiment un peu égoïste, parce que elle va pas forcément mettre sa famille dans les compteurs de ce qu'elle choisit, et elle va avoir vraiment son idée en tête, ce qu'elle veut, et foncer dessus sans vraiment se poser la question de est-ce que ça va pas poser problème, le fait d'aller voir la sorcière, d'échanger sa queue contre sa voix, est-ce que ça va pas non plus... à la fin, on sait bien que si, ça va poser des problèmes. Donc, bon.
Après, en soi, je suis un peu d'accord, mais dans le sens où, en fait, Ariel, elle a quand même 16 ans, elle le dit quand même dans le film, parce qu'avant, on ne savait pas trop l'âge des princesses. Là, vraiment, elle le dit, elle a 16 ans. Il y a une chaîne vraiment où elle se rebelle contre son père en disant « j'en ai marre, je ne suis plus une petite fille ». Et on peut un peu le voir comme juste montrer une crise d'ado, parce que elle ne se pose pas de questions et tout, elle veut juste vivre sa vie, mais parce que elle est immature un peu, tu vois, parce qu'elle est jeune et parce qu'elle a juste envie d'être avec son prince.
Ouais.
Mais en fait, l'ampleur de ce qu'elle fait pour être avec son prince... c'est trop, quoi. Genre, elle abandonne littéralement toute sa vie pour un monde qu'elle connaît absolument pas. Et là, quand elle voit le monde, enfin, en plus, il y a une petite relation qui se crée entre le prince et elle. Bon, elle parle pas, mais tu vois, il lui montre un peu le monde. Oui. Il l'amène dans une barque et tout, tu vois. Mais en fait, c'est comme si c'était une ado qui voulait se rebeller un peu et qui découvrait le monde. Mais bon, tu passes d'un monde à un autre, quoi. Là, c'est un peu trop. Et à la fin, elle se marie carrément avec lui, quoi. Tu vois, ça finit en mariage, alors qu'au final, ils ont pas tant parlé que ça, tant interagi que ça.
La Belle et la Bête, moi en vrai j'ai pas grand chose à dire sur ce film car je l'aime vraiment bien. Je sais pas forcément, toi t'auras quelque chose à dire par rapport aux idées féministes qui sont véhiculées. Après moi j'ai le sentiment que Belle c'est quand même un personnage assez féministe pour le coup, voilà, elle est montrée comme la fille un petit peu différente de son village. C'est une originale, etc. Alors qu'au final, juste elle veut être ce qu'elle est, elle veut vivre sa vie sans avoir à se marier avec un homme qui veut se marier avec elle juste parce qu'elle est jolie.
C'est ça.
Et voilà quoi, elle aime lire, elle aime se renseigner sur les choses. Elle rencontre une bête qu'elle apprend d'abord à connaître avant de d'éprouver des sentiments. Personnellement, je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, je sais pas.
Bah, en fait, oui, la belle, dans La Belle et la Bête, elle est un peu considérée comme une pierre à l'édifice en termes de féminisme, parce que faut quand même rappeler que oui, ça a été beaucoup critiqué, les princesses Disney, même à l'époque, qu'ils en avaient marre, que ce soit toujours, une personne qui n'ait pas beaucoup de personnalité, quoi, parce que voilà, on a dit, Ariel, elle parle, au final, elle a beaucoup de films où elle parle pas. Mais là, du coup, Belle, elle sait lire et elle s'en fout un peu, de Gaston. Et Gaston, il peut être un peu vu comme une sorte de parodie des princes, parce qu'il est très vaniteux, au début, il y a une scène où il veut se marier avec Belle, il a tout organisé, tout très très vite, donc ça peut être un peu une sorte de moquerie de ce que se faisait avant les princes qui se mariaient très vite, tu vois. Et elle, en fait, elle n'est pas du tout intéressée parce qu'elle sent que Gaston, c'est pas quelqu'un de bien pour elle, donc elle réfléchit un peu. Mais il y a quand même ce côté où elle se dit, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me comprend et tout, moi je suis pas comme les autres. Et encore une fois, il n'y a pas aussi de soutien entre filles. Enfin, il y a toute une ribambelle de filles qui en plus sont dessinées pareilles, qui sont très amoureuses de Gaston. Et moi, j'aurais bien aimé une scène où Belle leur parle en disant, non, Gaston, c'est pas un bon gars. Et que vraiment, et là, il n'y a pas trop ça. Vraiment, Belle, elle n'est pas comme les autres filles, tu vois. Encore une fois, il y a ce côté, not like other girls. Genre, moi, je suis plus intelligente. Et du coup, il y a un petit peu de mépris, tu vois, des filles qui ne lisent pas, qui tout ça. Enfin, du coup, c'est pas, top. Et puis en soi,
C'est le truc, en effet. Qui est très clair aux yeux, c'est le not like other girls qui, franchement, c'est prédominant, quoi. Le personnage n'est vraiment, est différent de tout le monde. On le répète même dans la chanson, rien que pour dire ça.
C'est
avec
ça.
Les autres filles qui sont clairement, qui se pavanent devant Gaston alors qu'elle, elle est différente, elle n'est pas intéressée.
Oui, voilà. Et puis en plus, la relation avec la bête, c'est vrai que là, on a vraiment un développement où elle apprend à le connaître, où ils apprennent à se connaître. Mais il y a un peu un côté aussi un peu infirmière, tu vois, où c'est elle qui va le sauver, littéralement. C'est elle qui prend la charge mentale de le sauver. Et d'une certaine manière, c'est elle littéralement qui sauve le contresort, c'est elle qui fait tout, tu vois. Donc en vrai, ça change un petit peu par rapport aux princesses qui se faisaient sauver. Là, c'est elle qui sauve tout. On n'a pas l'impression que elle change tant que ça. C'est la bête qui change parce que c'est Belle qui l'a fait changer. Donc on a l'impression que ça apprend aux petites filles. Quand vous avez un monstre en face de vous, entre guillemets, tu vois, c'est à vous du coup de le changer et il va changer, mais pas forcément, tu vois. Genre.
Puis il y a ce truc à la fin de l'homme qui à la base était assez repoussant, qui devient en fait incroyablement beau.
Oui. Ça casse tout, quoi.
Ouais, il faut qu'il soit incroyablement beau pour être avec la princesse à la fin.
C'est ça. Et il y a la fameuse danse aussi, où ils dansent ensemble, ce qui veut dire qu'ils sont ensemble. Mais donc, oui, c'est cool, parce que pour une fois, là, c'est pas elle, la demoiselle en détresse, c'est un peu la bête qui doit être sauvée. Et puis du coup, c'est elle qui l'embrasse, qui le sauve et tout, mais ça enseigne quand même qu'à la fin, pour avoir le beau prince charmant, il faut que vous le changiez, il faut que vous l'éduquiez, il faut que vous preniez la charge de tout faire, quoi, pour lui. Belle ne change pas tant que ça, au final, tu vois, quand on réfléchit... Et puis en plus, elle est quand même enfermée. Elle abandonne son père et puis son village. Au début, c'est ça. Il lui dit, je vous prends ma prisonnière pour l'éternité. Et du coup, il a été clairement violent, mais quand même, elle apprécie à l'aimer. Mais on revient pas trop sur cette histoire, quoi. Après aussi, par rapport au personnage du père, c'est intéressant parce qu'on voit quand même que Belle pense beaucoup à son père, sauve beaucoup son père. Et du coup, là, la relation est différente des autres. Enfin, en fait, elle a plus d'interactions avec les autres personnages, quoi. Ça, c'est chouette. C'est vrai. On voit que les princesses sont moins enfermées par rapport aux premières générations. On sent que quand même Disney a voulu un peu casser ça. On sent qu'elles ont plus d'interactions avec les autres et qu'elles remettent un peu plus en cause ce qu'on leur dit. Par exemple, dans Aladdin, tu vois, Jasmine, elle en a marre de la tradition. Elle en a marre d'être enfermée dans son palais. Elle veut s'enfuir et elle veut pas d'un prince au final. Elle veut d'être quelqu'un de sincère qui apprend à la connaître, pas d'un prince avec des artifices, quoi.
Et puis, elle est très libérée. Jasmine, elle fait les choses... jusqu'au bout, et puis je sais qu'il y a une scène à la fin du film avec Jafar, où du coup, elle va lui faire croire que son enchantement pour la faire tomber amoureuse de lui a marché, pour pouvoir sauver l'homme qu'elle aime. Et ça, c'est vraiment la femme qui prend possession de son propre corps pour agir et pour s'en sortir elle-même, quoi. Enfin, pour avancer, quoi.
C'est ça, exactement. Elle va utiliser son pouvoir de séduction pour avancer, elle-même. Pour elle-même, c'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'on se rend compte que Jasmine réfléchit un peu plus et va même avoir un petit côté malin, quoi, en faisant ça. Donc ça, c'est intéressant.
C'est vrai.
Et puis Jasmine, c'est la première princesse Jasmine aussi à être arabe.
Oui.
Les autres princesses, on l'a pas trop dit, mais elles étaient blanches, elles étaient minces, enfin, la représentation est pas trop là. Bon, après, Jasmine est aussi super mince, mais la première princesse arabe, quoi.
C'est vrai. Ça change.
Oui, donc on va parler de Pocahontas maintenant.
Alors, Pocahontas, il y a une vidéo de Lindsay Ellis qui est très intéressante sur le sujet. Et c'est vrai que Pocahontas, c'est un personnage qui forcément est intéressant car elle véhicule pas mal de notions féministes elle aussi. Comme le fait justement d'être libérée, de faire les choses pour elle, d'avancer au dépit de ce que les gens peuvent penser, tout en mettant en considération ses proches. Donc même si, par exemple, elle tombe amoureuse de John Smith, elle va quand même prendre en considération qu'il y a Cocoum. Et c'est, elle va pas bien vivre le fait qu'il arrive quelque chose à Cocoum dans le film.
Oui.
Et même à la fin, elle va sacrifier ce que pense sa famille. Hein. En tout cas, elle va se mettre en travers de sa famille pour sauver un homme, car elle estime que les deux parties ont tort dans l'histoire, et pour justement remettre l'appel là-dessus.
C'est ça, elle s'interpose en fait littéralement quand John Smith est prêt à se faire exécuter, elle arrive et dit non. Et du coup, en fait, même les colons veulent plus envahir leur terre grâce en fait au geste de Pocahontas qui s'est interposé littéralement. Et en plus, c'est intéressant de voir que d'un point de vue écoféministe aussi, enfin, elle est très proche de la nature, elle est très, oui, c'est vraiment le féminin qui est proche de la nature, alors que du coup, les colons sont vraiment vus comme des barbares qui envahissent tout, enfin le méchant, tu vois, blanc. Représente un peu la violence masculine et tout, à part du coup John Smith qui est un peu le white savior, tu vois, qui va lui enseigner et tout. Bah, en vrai, on peut voir ça aussi comme ça, que Pocahontas, c'est la douceur, c'est la nature, et c'est une sorte d'ode à la nature, un peu, d'une certaine manière, écologique, un petit début, enfin, tu vois. Mais dans l'animation de Pocahontas...
Voilà, c'est un personnage qui, visuellement, est quand même très pulpeux, très... qui s'habille très légèrement. Et ça, c'est assez embêtant parce que on a l'impression qu'elle est surmaquillée au niveau du visage. Elle a un corps très très volumineux au niveau des courbes. Et ça fait très instagrammeuse, mannequin, la femme parfaite, magnifique, qui est en pleine nature, la sauvage idéale, qui rend la chose un peu plus problématique.
Ça fait un peu une sorte de fétichisation, en fait, des femmes racisées, quoi. Simplement, c'est vraiment comme tu dis, la belle Amazone. Et c'est un peu, gênant. Et ça, encore une fois, ça véhicule la femme très fine, très pulpeuse, très parfaite aux petites filles, quoi.
Ouais, avec les cheveux au vent magnifiques, jamais emmêlés. Et puis, l'homme blond, blanc, magnifique, qui a sûrement fait beaucoup de mal à beaucoup d'indigènes, etc., avant, mais qui, là, tombe amoureux de la belle femme et donc change ses valeurs.
C'est ça.
Voilà.
Il y a un truc quand même que j'aime bien dans Pocahontas, c'est qu'à la fin, elle ne finit pas avec Smith, dans le sens où ils s'embrassent, ils sont amoureux, ça se voit, ils tiennent l'un à l'autre, mais elle choisit son peuple. Et lui choisit de rester aussi avec les siens, et ils ont un lien ensemble et tout. Donc on va pas parler des suites ou quoi, je sais pas trop ce qui s'est passé après, mais dans la fin du Pocahontas des années 90, Pocahontas reste avec son peuple, et elle ne finit pas avec John Smith, elle ne le suit pas, elle ne se marie pas. Ils ont décidé de se marier à leur peuple, en fait.
Ouais.
Et ça, je trouve ça très intéressant. Et puis aussi, encore, on parlait beaucoup du fait qu'il y ait un manque de sororité, mais là, il y a un petit début, parce qu'il y a Grand-mère Feuillage, qui est une sorte d'allié, tu vois, qui l'aide beaucoup, et qui est une personne âgée, en plus. Donc ça, c'est vraiment pas mal.
Et elle a une amie aussi, une meilleure amie, qui remet beaucoup en question ce qu'elle fait, et va toujours l'interroger, pas forcément l'encourager dans tout ce qu'elle fait. Et c'est un personnage qui est super intéressant aussi. C'est dommage qu'on le voit pas plus souvent dans le film. Et face à cet esprit libre qu'est Pocahontas, elle va pouvoir remettre un peu sur terre les idées qu'elle va avoir. Et c'est assez intéressant
C'est ça, c'est vraiment bien, c'est que l'ami en fait est là, mais elle n'est pas vue de manière négative. C'est pas l'ami relou qui donne des conseils et tout, c'est vraiment, elle est vue de manière positive. Elle se demande un peu ce que fait Pocahontas, elle essaie de l'écouter, donc il y a un petit début de relation plutôt positif entre deux personnages féminins qui du coup change un peu du côté où on dénigrait d'autres femmes pour mettre en valeur la princesse, quoi. Ce qu'on faisait beaucoup du coup dans Aladdin ou dans La Belle et la Bête. Mulan, du coup.
Mulan qui n'est pas une princesse, mais qui c'est est quand ça. Même un personnage féminin très fort de ces années-là.
Et, c'est vrai.
Et qui se fait aussi se poser des questions. Donc forcément, là, c'est un personnage qui, au premier coup d'œil, fait changer les mentalités, car justement, elle va se mettre dans la peau d'un homme pour sauver son pays, sa famille, empêcher son père d'aller participer à la guerre dans l'état dans lequel il est. Et va justement s'élever au rang d'une des meilleures personnes, d'un des meilleurs soldats de son armée, alors qu'en réalité c'est une femme et que en général elles sont pas autorisées quoi à participer au combat.
Donc, oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment intéressant Mulan parce que elle remet vraiment en cause les rôles genrés. Littéralement, elle se transvestit pour aller à la guerre et du coup, c'est elle qui du coup sauve la Chine et qui a même un poste à la fin et tout. Et en fait, à la fin, surtout, elle sauve Chang. Encore une fois, elle se sacrifie pour lui et c'est elle qui sauve tout le monde. Il y a même aussi, on se moque un peu des princesses Disney avec les garçons qui chantent Une belle fille à aimer. Ils disent je veux une fille douce qui sait faire la cuisine.
C'est ça.
Là, t'as Mulan qui dit et l'intelligence. Non, moi, non. Donc, c'est un peu aussi, on tord un peu le cou aux anciennes princesses Disney. Et en soi, Mulan aussi, elle est vraiment badass, on peut le dire. Elle est souvent vue comme la princesse féministe à chaque fois quand on en parle. Mais elle reprend des attributs typiquement masculins. Donc, quand est-ce qu'il y a un prince qui reprend des attributs féminins et qui soit aussi badass, quoi? Parce qu'en fait, ce que fait Mulan, c'est aussi bien vu chez les hommes que chez les femmes. Donc forcément, si les femmes le font, c'est encore mieux. Mais ces attributs qu'ils ont toujours été mis en avant, de se battre, de combattre. Donc voilà.
C'est qu'elle doit devenir un homme pour réussir, quoi. Elle ne peut pas réussir en étant une femme. Et bon, après, ça permet justement de voir que même à l'époque, c'était compliqué d'être une femme. C'est vrai qu'à la fin, même au moment où elle révèle qu'elle est une femme, les gens ne l'écoutent plus. Et c'est vraiment, même Mouchou en rigole en disant « Ah pardon, je ne t'écoutais pas, je suis une femme maintenant. »
On rigole beaucoup de ça, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est intéressant. Mais après aussi, à la fin, donc du coup, elle a un poste avec l'empereur, elle a sauvé la Chine, tout le monde littéralement s'acclame devant elle. Mais elle revient avec Chang, elle se marie avec lui, elle revient chez elle. Elle dit adieu à tout ça, donc en fait...
Même pas en vrai, parce qu'à la fin, du coup, c'est l'empereur qui décide de vraiment, il a conscience que c'est elle qui a sauvé son pays et va donc lui offrir un pendentif, il me semble, et l'épée de Shan Yu.
Mm-hmm.
Et donc, quand elle revient, c'est vraiment pour son père. Elle va pas penser à Chang ni rien. C'est pas ça qui entre en compte dans sa décision. Elle va vraiment penser à sa famille en premier, l'amener à son père, lui montrer qu'elle a réussi. Et c'est après que Chang va arriver en disant « Bonjour, vous avez oublié quelque chose, etc.
Mm. »
Et là, il va être invité à venir prendre... un repas avec eux. Et après, libre à nous de voir qu'est-ce qu'on en imagine après.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est vrai
ouais.
que dans le 2, du coup, ils mettent vraiment qu'ils se sont mariés ou qu'ils vont se marier, avoir peut-être des enfants, etc.
Mais c'est...
dans le 1, pas vraiment.
Ouais, c'est ça. Enfin, oui, en gros, c'est pas la relation qui est mise en avant, quoi. C'est vraiment ça. Mulan qui sauve la Chine d'abord.
Ouais, on Donc, sait qu'elle ouais. a des sentiments pour lui et que lui aussi... éprouve des sentiments pour elle vers la fin. Mais c'est pas vraiment ce sur quoi on se concentre, en effet. C'est vraiment l'évolution du personnage de Mulan, de la femme, de sa réussite dans l'histoire.
C'est ça, exactement. Et c'est intéressant, du coup, de voir tout ça. Après aussi, on n'a pas trop parlé, mais au final, dans les princesses des années 40-60, c'était beaucoup de princesses nées comme ça. Donc, c'était des aristos directs, tu vois. Et en soi, Ariel, bah pareil, c'est une princesse parce que c'est le roi Triton. Jasmine, pareil. Mais là, tu vois, Belle et Mulan, c'est des prolos.
Ouais.
Elles sont pas princesses. Et elles sont princesses grâce au fait qu'elles se mettent avec un homme qui est prince.
Je pense que c'est un soldat, c'est général.
C'est ça. Bon, en fait, elles sont pas princesses Et du coup, ça, c'est intéressant de voir que elles partent pas d'une aristocratie, elles partent du coup de la classe prolétaire,
ouais.
Et elles s'élèvent en fait grâce à un prince, mais elles ont d'autres valeurs du coup. Et tu vois, par exemple, Mulan, elle mange de manière très genre grasse, tu sais, elle mange mal et tout, elle est maladroite dans ses gestes et tout, elle a un peu du mal à un peu s'intégrer, tu vois, avec les femmes, avec la féminité, elle a beaucoup de mal. Ouais. Et il y a même la chanson Réflexion, elle se demande mais pourquoi et tout, j'y arrive pas.
C'est pas une épouse parfaite.
C'est ça, et c'est pas du tout une femme parfaite parce que elle a des attributs littéralement qui sont associés à la masculinité en général. Donc oui, elle mange mal, elle est maladroite. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'ils ont cassé un peu ce côté douceur parfaite et aristo en fait des princesses quoi.
Et c'est un personnage qui est pas forcément, qui a pas toutes les capacités pour réussir à la base, mais qui va justement s'élever par ses actes, par ses actions pour devenir quelqu'un de pas une princesse du coup, mais quelqu'un plus haut dans la hiérarchie.
C'est ça. En fait, c'est grâce à sa personnalité, et toutes les princesses ont ce commun-là, c'est que c'est grâce à leur personnalité un peu qu'elles arrivent à mener le film, quoi. Genre, justement, tu vois, Jasmine, c'est grâce au fait qu'elle refuse les traditions qu'elle arrive un petit peu à s'élever et à discuter avec Aladdin. Là, c'est pareil pour Mulan, du coup, comme tu l'as dit. Belle, c'est pareil aussi, c'est le fait qu'elle lise et tout, qu'elle se pose des questions, dit « Ah bah non, pas Gaston » et tout.
C'est vrai.
Donc, vraiment, grâce à leur personnalité, on sent qu'il y a un petit changement, mais c'est sur la fin, en fait, elles finissent quand même avec un homme, elles finissent quand même mariées, ça reste quand même très traditionnel à la fin, quoi.
J'ai envie de faire juste un petit point sur le personnage d'Esmeralda aussi dans Le Bossu de Notre-Dame, qui prend aussi pas mal de place dans le combat féministe, dans le sens où c'est un personnage qui n'hésite pas à montrer son corps, à être ce qu'elle est, à pas avoir honte de ce qu'elle est, pour agir et justement pour être engagée dans des valeurs et à soutenir sa communauté, et c'est un personnage très fort dans le combat.
Encore une fois, il y a le côté, elle utilise sa féminité en fait pour s'émanciper, quoi.
Ouais.
Ouais, je vois.
La séduction et sa beauté pour justement venir au bout de ce qu'elle veut. Et ça, c'est assez fort aussi comme personnage.
C'est assez novateur, oui. Et aussi, ça me fait penser à la princesse Nala, dans Le Roi Lion aussi, qui, pareil, va chasser, en fait, et c'est elle qui va ramener Simba, c'est elle qui va le chercher. Et il y a même une scène dans la comédie musicale, en fait, où c'est elle qui mène les lionnes, c'est elle la patronne des lionnes et tout. Enfin, vraiment, il y a beaucoup plus de... c'est elle la boss, quoi, tu vois. Et en fait, c'est limite elle qui va draguer Simba quand il revient et... Bon, au final, c'est lui qui est sur le trône, tu vois, mais c'est elle qui le ramène, qui lui explique bien de manière qu'il faut grandir, tout ça et tout, mais pas de manière en mode maman comme Wendy. Là, elle le fait en mode non, faut se battre et tout, faut y aller. Moi, je me bats et tout depuis des années aux côtés de Scar, donc maintenant, c'est toi ton rôle aussi de le faire, quoi.
C'est ça.
Donc, elle l'engueule un peu, quoi. Et je trouve ça plutôt pas mal,
ouais.
Effectivement. Après, il y a encore ce côté charge mentale et tout, que c'est elle qui le porte.
Forcément.
Peu de personnages féminins. Ou alors, encore une fois, notre like the other girl. Donc, les princesses des années 90 sont pas non plus top top, mais elles sont quand même mieux.
Et puis, Esmeralda, elle finit quand même avec un peu un prince, ou en tout cas, quelque chose qui y ressemble. Donc, bon. Mais, ouais.
Ouais, c'est ça. Alors, les princesses d'aujourd'hui, c'est la plupart des princesses que je pense qu'on a beaucoup vues au cinéma, même du coup nous en tant qu'enfants et tout.
Ouais.
Donc, on va parler de Tiana, Riponce, Mérida, Elsa et Anna, Vaiana et les princesses d'Encanto, Mirabelle, Louisa et Isabella. Alors, du coup, là, clairement, les princesses, elles n'attendent plus l'amour. Elles n'attendent plus le prince charmant. Là, clairement, les rêves ont changé. Là, Tiana, donc, elle veut fonder un restaurant. Et Riponce, par exemple, veut voir les lanternes, découvrir le monde. Vaiana, elle veut découvrir ce qu'il y a en dehors. Mais c'est par exemple, Ariel aussi, c'était ça. Elle voulait découvrir ce qu'il y avait en dehors de son monde. Mais c'est le prince qui l'a fait bouger.
Ouais.
Là,
Puis là, elle veut sauver son monde aussi.
Oui, Vaiana veut sauver son monde.
Elle veut réussir à rendre le cœur de Tefiti pour sauver la malédiction qui plane sur son île. Donc,
c'est ça.
Aussi, l'époque des princesses Disney se sont un peu arrêtées aussi dans les années 2000. Et Tiana a essayé de relancer la machine de Disney en proposant justement une princesse qui pouvait nous pousser à s'intéresser à elle. Et malheureusement, ça n'a pas marché. C'est un film qui n'a pas vraiment bien marché au cinéma. Et après ça, ils ont commencé à faire de la 3D en se disant que ça pouvait relancer le studio, et c'est Réponse qui a permis de relancer les choses, de redonner à Disney la force qu'il avait eue dans les années 90.
Effectivement, après, vraiment, La Princesse et la Grenouille n'a pas marché pour beaucoup de raisons. Déjà, oui, comme tu dis, c'était le dernier Disney 2D, et c'était aussi un Disney, du coup, avec une princesse noire, donc il y a beaucoup de racisme, malheureusement. Mmh. Et puis, il y a aussi beaucoup de sujets qui n'ont pas peut-être été assez creusés, mais c'est intéressant de voir le personnage de Charlotte dans La Princesse et la Grenouille, qui, je trouve, est vraiment une sorte de parodie, en fait, des princesses qui attendent le prince avec la belle robe et tout. Et c'est intéressant de voir que là, Disney, encore une fois, comme il l'avait fait avec Gaston, le fait cette fois-ci ose le faire avec une princesse et en plus Charlotte est un personnage très positif avec Tiana. Pour le coup, il y a vraiment une amitié très très sincère entre elles, quoi.
C'est un personnage que j'aime beaucoup, Charlotte, parce que vraiment elle donne tout ce qu'elle a, elle n'hésite pas à être ce qu'elle est, elle est extravertie, hyperactive, voilà, elle fait les choses. Et à côté de ça, c'est un très gros soutien pour son amie, elle n'hésite pas à se mettre de côté pour la mettre au centre, il lui donnait l'attention dont elle a besoin et l'aide dont elle a besoin. Et c'est pour ça qu'à la fin aussi, elle va forcément laisser de côté son rêve de devenir princesse en épousant Navin, car elle sait que son amie est tombée amoureuse de lui et donc va faire en sorte qu'ils puissent finir ensemble tous les deux.
Non mais exactement, c'est ça, c'est que Charlotte n'est pas du tout un élément barrage à Tiana, au contraire, elle fait pas du tout de mépris de classe, elle est toujours là pour elle, clairement c'est très intéressant de voir que, comme tu dis, elle se sacrifie pour son amie, qu'elle considère énormément, quoi.
Ouais.
Et en plus de ça, donc la relation entre Navin et Tiana est intéressante parce qu'elle est très développée. Il y a vraiment beaucoup de scènes où ils apprennent à se connaître, ils rigolent ensemble, limite ils se charrient un petit peu au début, ils s'aiment pas trop. On se demande, c'est un Disney, donc on sait qu'ils vont finir ensemble, mais on se demande au début comment, parce qu'ils s'aiment pas du tout. En plus, encore une fois, Tiana, c'est une prolo, enfin, elle est serveuse, rien à voir avec les princesses, elle veut devenir son restaurant, et c'est grâce à Navin qu'au final, elle devient princesse, mais c'est pareil, c'est très rapide à la fin, quoi.
C'est
ça. C'est pas du tout son rêve. Elle veut son restaurant.
Pour le coup, le film s'est vraiment centré sur la relation entre Tiana et Navin, et c'est important parce que si c'est quelque chose qui est mis un peu aux oubliettes, ça marche pas du tout. Et là, justement, ils ont vraiment mis en valeur le couple et comment est-ce qu'ils se forment. Donc au début, la relation qui est un petit peu tendue, bon, ça s'entend pas très bien, et ils vont apprendre à s'entraider dans les difficultés pour justement avancer et s'en sortir, et c'est ça qui va les souder et les apprendre à se connaître et à s'apprécier. Et cette fin est assez forte aussi parce que c'est vrai que en fait ils s'intéressent plus forcément à ce qu'ils avaient à la base en tête, et ce qui est important pour eux, c'est d'être ensemble, même s'ils sont sous forme de grenouille du coup. Et c'est donc le baiser de Navin qui va permettre à Tiana de devenir une princesse en se mariant avec elle. Et ça, c'est assez intéressant comme partie. J'ai trouvé ça plutôt bien vu. En plus, Tiana, c'est quand même un personnage assez fort parce que elle veut fonder son restaurant, elle veut créer un restaurant. Et ça, on l'a jamais vraiment vu avant, un personnage qui veut fonder sa propre société. Et ça donne de la puissance au personnage.
Totalement. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'elle n'abandonne pas son rêve à la fin. C'est qu'à la fin, elle est avec Navin, mais elle veut quand même avoir son restaurant. Elle va le construire, elle va le faire. Et à elle, la Nouvelle-Orléans, clairement, c'est super. Et j'aime bien aussi parce que dans le film, on les voit beaucoup en grenouille. Et tu sais, il parle du fait qu'on lui a coupé les vives, Navin, il se transforme en grenouille, il est déclassé, tu vois. Mais c'est grâce à Tiana qu'il va réussir à comprendre qu'il y a d'autres valeurs dans la vie. Et il y a vraiment une sorte de dynamique très intéressante, et c'est pas le prince charmant qui a tout, là, Navin, au final. Au contraire, on se moque un peu de ça, parce qu'il rigole et tout, il s'amuse et tout, puis là, il y a une grenouille et il galère, quoi. Donc, ouais.
Navin, il est très carpe diem, il fait les choses sans vraiment se réfléchir aux conséquences de ses actes. Il profite de la vie, il se laisse aller, il drague des filles, il joue de la musique. C'est un peu la fable de la cigale et la fourmi, en fait.
C'est clair.
Parce que clairement, il profite de la vie sans vraiment réfléchir à comment va se passer la suite. Et donc forcément, il a vécu les conséquences de ses parents qui l'ont sorti de la maison. Et là, en rencontrant Tiana, qui est un personnage qui, pour le coup, ne se repose jamais sur les autres, ne va pas profiter des moments où elle peut voir ses amis, mais va vraiment tout faire pour atteindre son objectif et réaliser ce qu'elle souhaite pour son avenir, ça va leur permettre de se construire l'un l'autre, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui leur permet de se développer et d'avancer.
C'est ça, exactement. Et puis après aussi, en soi, Naveen, comme tu dis, moi je le trouve aussi un peu... on se moque aussi, encore une fois, du prince charmant avec lui, vraiment. Parce que comme tu dis, il s'en fout et tout, il a plein de filles et tout sous les yeux, donc il utilise vraiment les attributs du prince charmant pour son propre désir, tu vois, et on se moque un peu de ça. Alors que Tiana, au début, elle s'en fout. Et du coup, on pourrait penser qu'il y a un côté « je suis pas comme les autres », mais grâce au personnage de Charlotte, on se rend compte que non, il y a des vraies amitiés. Ou Mama Odie aussi. Mama Odie, qui est une sorte de sorcière fée et tout, une petite grand-mère là, tout rigolote. Moi, j'adore Mama Odie. Et en fait, elle leur apprend aussi des choses, elle leur apprend des valeurs, elle leur fait réaliser qu'il n'y a pas que le travail, ou il n'y a pas que s'amuser dans la vie. Il faut travailler ensemble, creuser encore plus qui on est, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a c'est un personnage très positif qui est âgé en plus. Ça, c'est super. Ouais. Qui a un rôle important quand même dans le film, parce qu'elle le fait réaliser des choses à tous les personnages en mode ouais, vos rêves, c'est bien beau, mais il y a autre chose, quoi.
C'est vrai qu'elle est intéressante comme personnage, et il y a un petit truc aussi avec Mama Odie, c'est que quand même elle demande au personnage de creuser, et ça fait se demander si elle n'est pas en train de demander à Tiana de changer d'objectif et d'un peu abandonner son rêve. Je sais qu'il y avait eu cette interrogation là, qui du coup est un peu embêtant, parce que le rêve, ça doit pas être d'épouser quelqu'un, c'est avant tout, c'est un bon objectif qu'elle a, l'idée de vouloir obtenir son restaurant. Et il y a cette fin de musique où Mama Odie est déçue d'entendre que Tiana, elle est restée sur l'idée qu'elle veut ouvrir son restaurant. Donc bon, voilà, Mama Odie est quand même un personnage intéressant, mais ça fait se poser des questions sur quelles sont ses motivations par rapport à cette chanson.
C'est vrai qu'au final, ça fait un peu, ouais, c'est bien que tu ouvres ton restaurant, mais pense aussi un peu à te poser. Ouais, c'est vrai.
Il n'y a rien de mal à vouloir ouvrir un restaurant. Exactement, et ouais, d'être à fond dans son objectif.
Effectivement. Passons à réponse, du coup. Ouais. Donc, réponse dans ce film, que je pense qu'on aime beaucoup toutes les deux.
Ah ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a pas de prince charmant du tout. Vraiment, là, c'est Flynn Rider, c'est un loser un peu, qui est voleur littéralement et tout. Et il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle Eugène Fitzherbert à la base. Et réponse va préférer Eugène Fitzherbert à Flynn Rider, parce que Flynn Rider, c'est pas lui, c'est une masculinité qui essaie de se montrer en avant, un peu tchatcher et tout, mais en fait, c'est pas le vrai Flynn Rider qui est le vrai Eugène Fitzherbert, qui est du coup sensible, qui est pas à l'aise avec lui-même, qui se pose des questions et tout. Donc c'est intéressant de voir que là, je trouve que dans réponse, ça fait très princesse des années 90 quand même, hein. Mais les personnages masculins sont en fait dans une masculinité qu'on voit pas, et limite on va se moquer avec les brigands, tu sais, les brigands qui sont genre qui sont stylistes, qui collectionnent des licornes et tout, qui sont pas du tout en fait comme on pourrait imaginer des vauriens. Mmh. Au final, ils ont vraiment une masculinité qui est très positive.
C'est ça.
Et je trouve ça intéressant qu'on le montre en avant, comme Flynn Rider en fait. Au final, derrière, il y a une masculinité qui est positive et qui n'est pas du tout l'image de l'homme vraiment fort et violent. Ouais. Mmh.
Ça sort des scénarios manichéens dont Disney avait l'habitude. Tout ce qui est conte de fées, en général, il y a toujours un gentil, un méchant. Et là, justement, on montre que même les personnes qu'on pense les plus méchantes ont des motivations, ou en tout cas, ont des fonds qui peuvent être un peu gentils. Et c'est vrai que même donc Eugène, il me semble qu'il explique dans le film qu'il a été inspiré par d'autres héros. Et donc, c'est ça qui a fait qu'il a envie d'être un brigand un peu badass, alors qu'au final, oui, c'est pas du tout ce qu'il est. C'est quelqu'un de très simple qui espère juste s'élever un petit peu. Et en rencontrant réponse, il y a cette relation aussi qui se crée, et quelque chose de très simple et de très naturel entre eux qui s'installe.
Exactement. Et en plus de ça, encore une fois, réponse, son rêve, c'est de découvrir les lanternes. Elle va ligoter le prince, donc elle utilise ses cheveux, attributs féminins et tout, pour son arme. Elle a une poêle et tout, machin, pour l'assommer. Et elle dit, tu vas m'emmener, genre, je vais t'utiliser pour que tu m'emmènes faire mon rêve, quoi. Il n'y a pas besoin de discuter, c'est comme ça. Et elle va se battre contre plein de monde avec une poêle, qui est censée être pour la cuisine. Donc c'est vraiment un élément aussi très fort, parce que, bah, il y a, en les années 40, la poêle, c'était pour faire la cuisine. Enfin, non, qu'est-ce que je dis?
C'est vrai?
Oui, c'est vrai qu'avant, la poêle, poils, c'était pour la cuisine. Et la oui. réponse s'utilise comme arme, quoi.
C'est un peu un signe de féminité, les femmes à la cuisine, etc. Et là, oui, elle l'utilise comme arme.
Elle se réapproprie, ouais. C'est vrai. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Et en plus, les cheveux aussi, on parlait de Pocahontas, là. Bah là, elle a les cheveux magnifiques, réponse. Ah, oui. Mais on les coupe à la fin.
Oui.
Et franchement, on les coupe parce que bah, Flynn veut se sacrifier pour. Enfin, préfère la liberté de réponse à sa vie. Et du coup, bon, c'est lui, du coup, qui la sauve. Mais en fait, réponse reste une princesse avec les cheveux courts.
Ouais. Surtout donc, que, à la base, les cheveux, elle les a longs car on l'a forcé à les avoir longs.
Oui.
C'est sa mère, en fait, qui la force à rester comme ça pour son propre intérêt. Et ça permet justement de se défaire de ses chaînes, de pouvoir couper enfin ses cheveux et de sortir de cette emprise. Et c'est vrai qu'il y a même cette idée que les cheveux longs, c'est associé aux femmes et les cheveux courts plutôt aux garçons. Et là, elle perd clairement cette féminité-là, ou en tout cas cet attribut-là pour pouvoir se libérer enfin.
Exactement. C'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir ça comme des chaînes. Et tu vois, Mère Gothel, je trouve que c'est un personnage... au final, elle est un peu comme la méchante belle-mère. Tu vois, elle fait ça pour être jeune, pour être belle. Mais elle utilise Réponse en la manipulant un peu. Et je trouve que ça marche bien.
Ah ouais.
Parce qu'on sent que Réponse, elle se doute pas du tout. Parce que Mère Gothel, elle est présentée comme un peu drôle. Comme un petit peu genre, je suis la bonne mère qui est là pour te protéger. Alors qu'elle la manipule totalement et pense qu'à elle. Du coup, c'est un méchant plutôt intéressant.
C'est
pas, elle martyrise pas tant que sa réponse. En fait, elle est plutôt en train de la protéger, de lui dire qu'elle est tout le temps là pour elle et tout. Donc, je trouve ça intéressant. Et ouais. Et puis, en plus, aussi, les moments gaguesques, Mickey Mousing avec la musique et tout, qu'on voyait beaucoup, de toute façon, là, ils ont complètement disparu, hein, ça, c'est sûr. Mais les moments gag, c'est entre Réponse et Flynn, tu vois, genre, les moments où elle est un peu en bad et après, elle va très bien et après, elle est en bad et tout.
Oui, c'est vrai. Et avec Maximus aussi.
Voilà, avec Maximus, avec le petit lapin, enfin, tous ces moments-là, en fait, c'est les personnages principaux qui portent le film, quoi. Mm. Où il y a un peu Pascal et tout qui est drôle et tout. Mais globalement, on sent que là, la relation, elle est un peu, ils se charrient, c'est ça aussi qui marche bien. Qui créent leur relation, c'est drôle et tout. C'est un peu... c'était l'âge d'or de Pixar aussi, les années 2000-2010. Et du coup, là, Disney commence à avoir du mal, mais genre, je trouve que là, la princesse déjà qui est en 3D...
D'ailleurs, c'est avec l'aide de Pixar qu'ils ont réussi à faire ce film.
C'est vrai, effectivement. Mm. Donc, en soi, on sent qu'il y a un petit côté un peu plus fun, tu vois, je trouve, entre les deux personnages qui ont vraiment une personnalité, mais qui sont drôles, qui ont du sarcasme un peu et tout, et je trouve ça intéressant. Ouais.
C'est vrai que même le personnage de Mère Gothel, il est super intéressant. C'est une femme encore très forte qui agit pour ses ambitions et pour... même si, forcément, c'est pas des ambitions et des volontés très... très positive, mais c'est un personnage, elle est belle, elle est forte, elle se comporte très intelligemment avec Réponse justement pour la faire croire que c'est une bonne mère et quelqu'un qui s'intéresse à elle, en lui amenant des plats qui lui plaisent, de la peinture parce qu'elle sait qu'elle aime ça, des livres, etc. Donc c'est vraiment des personnages tous intéressants, même
c'est
le
ça.
Personnage de Flynn du coup, qui est vraiment...
j'adore.
qui est un homme, ok, mais qui vraiment est... Et intéressant à suivre et qui a lui aussi ses faiblesses et ses défauts. Et qui va justement, tout comme Navin avec Tiana, apprendre à travailler avec Réponse pour avancer et
c'est ça.
Pour devenir meilleur.
Exactement. Et c'est pas tant lui qui la sauve de sa tour. C'est elle qui utilise vraiment Flynn pour se sortir de là. Et finalement, en fait, en plus, aussi, Réponse, je trouve qu'elle est un peu, genre, pas insolente, mais tu sais, des fois, elle est en mode, ce que je demande depuis pas mal d'années et tout, machin. Genre, elle a une petite personnalité où elle râle un peu et tout, machin. Et ça, je trouve ça intéressant, quoi. Mm. Et elle est pas du tout passive. Et c'est pas Flynn qui va la sauver, c'est ensemble qu'ils vont se sauver.
Ouais.
Et tu sais, quand il lui dit, tu étais mon nouveau rêve, je trouve que ça marche bien aussi. Je trouve que c'est assez émouvant.
Ils se sortent mutuellement du pétrin.
C'est ça. Passons du coup à le Disney qu'on a entendu encore pendant, qu'on entend encore aujourd'hui, qu'on entend depuis pas mal d'années, la Reine des Neiges, le fameux. Alors là, clairement, c'est considéré comme le Disney le plus féministe de ces dernières années, parce que déjà on a deux princesses pour le prix d'une, deux, c'est même pas des princesses, Elsa c'est une reine déjà, donc c'est la position de pouvoir, et Elsa, elle est toute seule à la fin. Elsa, elle va régner, c'est une reine et elle n'est pas en couple.
Ah, clairement, hein, c'est un personnage qui est juste libéré, délivré,
c'est
comme
ça.
Elle dit.
Littéralement.
Qui est seule et bien comme ça. Et c'est même pas une question qu'elle se pose, en fait. Elle se met même pas en question l'idée d'être en couple. C'est plus sa sœur, du coup, qui va beaucoup avoir ça en tête. Elsa, voilà, elle vit pour elle. Elle fait les choses avant tout. Elle cherche d'abord à se construire elle-même, à apprendre à vivre avec elle-même avant de chercher quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que là, la relation qu'on voit le plus au niveau féministe dans le film, c'est par rapport à Hans, qui est donc le prince un peu parfait, idéal, qu'on a pu voir dans d'autres films avant. Et là, il y a cette phrase aussi, bon, que je ne trouve pas très subtile, mais qui dit qu'on ne se marie pas avec quelqu'un que l'on vient de rencontrer. Et ce qui est vrai, mais qui est sorti un petit peu, bon, voilà, mais... Et c'est assez intéressant de voir le parti qu'ils ont pris avec ce film, de montrer justement que on ne peut pas s'intéresser à un personnage qui ressemble à un prince juste pour de l'amour et pour une histoire de coup de foudre.
Totalement, en fait, c'est vraiment intéressant parce que là, Hans, c'est un tyran, en fait, il veut le pouvoir et tout, et il est présenté, enfin, à aucun moment, il y a même une chanson avec lui positif, L'amour est un cadeau, qui, je trouve, était un peu une sorte de moquerie aussi, de, ah, c'est trop bien, on est amoureux et tout, on va se marier, machin, on se connaît pas. Donc oui, c'est pas du tout subtil, ce côté, on n'épouse pas un homme qu'on vient de rencontrer, genre, merci, genre, Disney qui veut un peu se refaire une image,
c'est ça.
Voilà. Mais c'est vrai que Hans, il a été vraiment salué comme méchant parce que, c'est le plot twist, quoi, c'est lui le méchant, et il apparaît comme le prince charmant que, Anna rêve de rencontrer. Donc là, Anna, elle a ce rêve, mais sa sœur lui dit non. Et sa sœur... Oui, c'est ça, c'est Anna qui a ce rêve. Et Elsa, elle, en fait, c'est intéressant parce qu'elle est trop puissante. En fait, elle n'arrive pas à se comprendre. Et on sent que, de base, ça devait être l'antagoniste. En plus, ça devait être la méchante. Mais Disney a décidé de faire en sorte de la faire un peu torturer, quoi. Faire un peu mal et tout. Et c'est grâce à sa sœur qui va la sauver.
C'est ça.
C'est vraiment là, pour le coup, l'amour entre sœurs, on l'a, quoi. Genre, c'est vraiment Anna qui va sauver sa sœur. Et c'est Elsa qui va revenir grâce à sa sœur, quoi. Qui la voit mourir et qui va la sauver en pleurant, là, genre vraiment, elles se soutiennent entre elles et c'est pas genre un homme et une femme qui soutiennent. La relation entre Christophe et Anna est développée, mais c'est vraiment la relation entre Anna et Elsa qui
est la plus importante. Ouais. C'est vrai que même Elsa, l'antagoniste qu'elle a le plus à combattre, c'est elle-même. Il faut qu'elle apprenne à se contrôler elle-même. Et il y a sa sœur qui, tout le long du film, va être de son côté et chercher à la soutenir. Et cette scène très très forte à la fin qui montre que cette histoire de baiser d'amour sincère n'est pas forcément quelque chose qu'il faut réserver à un homme, une femme qui est dans une optique amoureuse, une relation amoureuse. Mais même dans une relation familiale, il y a aussi de l'amour sincère et quelque chose qui peut être tout aussi fort. Et c'est ça que nous montrent Anna et Elsa en ayant cette scène très belle où Anna va sacrifier sa propre vie pour sauver sa sœur. Et c'est ça qui va montrer un geste d'amour sincère qui marcherait tout autant que si Christophe avait embrassé Anna.
Exactement. Et puis tu vois, Christophe, un peu comme Flynn, c'est un peu un loser et tout. Enfin, c'est pas du tout l'archétype du prince charmant. L'archétype du prince charmant, c'est Hans, mais c'est le méchant.
Ouais.
Donc voilà, ça c'est intéressant de voir qu'ils ont décidé, pour le coup, encore une fois, d'enlever le prince charmant, de mettre un homme, mais c'est pas le prince charmant. Et en plus, j'aime bien parce que Anna et Christophe, ok, finissent ensemble. Donc voilà, mais c'est pas ça qui est vraiment montré. C'est vraiment, ils s'embrassent vite fait. Et après, là, on voit surtout Elsa qui revient, qui règne, et puis point barre. C'est vraiment ça, la fin, l'happy end, quoi. C'est Elsa qui est enfin sur le trône et qui est bien avec ses pouvoirs et Anna qui s'entend bien avec sa sœur. Et Elsa et Anna qui s'entendent enfin bien alors qu'elles ont été séparées. Voilà, ça je trouve ça très très beau, quoi.
C'est ça. Et puis le personnage de Christophe, c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un d'assez authentique qui ne se prend pas la tête forcément et qui va pas vraiment chercher à tomber amoureux d'Anna au début. Voilà, il va juste l'aider parce qu'elle est là et parce qu'elle lui a donné des carottes.
Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment une relation au final. C'est touchante quand même, tu vois. Puis en plus, c'est bien de voir avec le parallèle du prince, quoi, de montrer qu'en fait là, Anna, elle a appris à connaître Christophe alors qu'elle connaissait pas Hans du tout, et elle savait pas que c'était un tyran.
Après, même Hans, pour moi, c'est pas forcément un personnage très négatif. Enfin, je sais qu'on le met vraiment en antagoniste, mais c'est quand même un personnage qui, dans son but, il veut le pouvoir, effectivement, donc c'est pas très positif, mais il va aider le royaume d'Arendelle à soutenir ce moment difficile en leur amenant par exemple des couvertures, en soutenant Anna, et c'est vraiment ce plot twist qui est un peu sorti de nulle part, comme quoi c'est un méchant qui est là juste pour faire le mal. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a un peu dérangée personnellement dans le film, Mais
bah après, moi, je trouve ça intéressant parce que justement, le fait que, comme tu dis, il aide Arendelle, il apporte des couvertures, tout ça, en fait, on veut vraiment pousser de regarder comment il est gentil, regarder comment il est parfait. C'est bizarre quand même. Et là, d'un coup, hop, non, en fait, il faisait exprès. En fait, ouais. Je trouve que vraiment, on montre que les gens peuvent être hypocrites.
Ouais, il le fait par intérêt.
Tu vois, exactement, qu'en fait, il le fait par intérêt et que, bah, juste un prince avide de pouvoir parce qu'il parle de ses frères et tout, machin. Donc, aussi, un peu un parallèle comme quoi, bah, tu vois, Anna et Elsa, elles s'entendent pas très bien au début, elles se connaissent pas tant que ça. Et tout, elle se parle pas trop et tout. Et bah, Hans, il s'entend pas avec ses frères, mais lui, au lieu d'essayer de communiquer, lui, il va prendre le pouvoir.
Ouais.
Voilà, il va chercher le pouvoir ailleurs. Alors que Elsa et Anna, elles vont réussir à communiquer entre femmes, se soutenir entre femmes, entre sœurs. Et Hans, bah, au final, non, il est jeté au cachot parce que bah, il était juste jaloux de ses frères et il voulait juste être mieux que ses frères. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a deux relations entre frères et entre sœurs. Et là, du coup, entre sœurs, ça marche.
C'est vrai.
La communication s'est faite et elles se sont sacrifiées.
C'est plus sain.
Plus sain. Donc, en vrai, moi, je le vois un peu comme ça et je trouve ça bien, ce plot twist intéressant. Ouais. Donc, Mérida, du coup. Alors, dans Rebelle, qui est un Pixar, mais on va quand même le compter dedans parce que beaucoup considèrent que Mérida est une princesse Disney. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de la gamme princesse Disney, qui est une gamme qui est sortie dans les 2000, un peu pour le studio relancer les princesses Disney, qui a fait beaucoup de marketing dessus. Et du coup, en fait, qui est très critiqué parce que c'est très genré, donc beaucoup de maquillage, de petites robes et très marketing, quoi, clairement. Et là, par exemple, on va parler de Mérida. Mérida, dans l'animation, elle est très différente des autres parce qu'elle fait vraiment ado. Elle a les cheveux en pétard, elle a les dents en avant, elle a des grands yeux. On dirait vraiment que, ouais, elle a 15-16 ans, quoi. Mais, et puis elle est un petit peu grosse aussi, tu vois, Mérida. Mais dans le marketing de Princess Disney, elle a été totalement sexualisée. Mais bon, pour revenir au film, c'est vrai que dans l'animation, c'est très intéressant parce qu'elle se libère littéralement des carcans, notamment quand, en fait, elle a sa robe là, très très près du corps et tout, qu'elle casse littéralement pour oser se demander en sa main, en fait, pour remettre en cause le fait qu'on la force à avoir un mari, quoi.
Encore une fois, là, pour se libérer justement aussi de ses chaînes, elle va briser la robe, oui, défaire les coutures pour faire ce qu'elle aime déjà, car... faire du tir à l'arc, c'est ce qu'elle aime. Et pour s'opposer à ce que les gens attendent d'elle, donc un mariage arrangé. Et c'est un message, encore une fois, très fort et très féministe, de vouloir justement gérer sa propre vie et son propre, sa propre relation, quoi.
C'est ça, exactement. En fait, elle dit « je veux vivre ma vie ». Et elle remet en cause ce que dit sa mère. Après aussi, pareil, dans la subtilité, on a vu mieux. Genre, sa mère lui dit beaucoup « on s'empiffre pas quand on est une princesse, on fait pas ça quand on est une princesse ». Bah ouais, merci. Genre, et puis aussi, c'est dommage parce que bah, là, c'est vrai que c'est vraiment les liens entre la mère et la fille qui sont montrés. Et il y a un manque de communication, comme est symbolisé avec la tapisserie. Tu sais, à un moment donné, Mérida, elle casse la tapisserie comme si elle cassait les liens entre sa mère et elle. Et que du coup, après, elle refond les liens à la fin. Ils refont la tapisserie. Donc vraiment, leur relation ne marche pas, mais pas parce qu'il y a de la jalousie ou de la compétition, juste parce qu'elles ne communiquent pas.
Ouais, elles ne s'entendent pas.
Elles s'entendent pas parce que bah, Mérida, elle a d'autres valeurs que sa mère. Mais je trouve quand même que ça fait un peu le patriarcat, le fait de se marier et tout avec un homme, c'est la faute des femmes qui se libèrent pas assez, donc faut se libérer comme Mérida. Ouais. Et le papa, il est un peu présenté comme le papa cool, tous les gars, c'est un peu des ressorts comiques. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite scène où Mérida se rebelle contre son père, un peu comme à la manière d'Ariel, alors que là c'est vraiment contre sa mère, comme si c'était la faute de sa mère. Donc voilà, ça je trouve peu dommage. Même si en soi je trouve ça très intéressant que la relation mère-fille soit montrée en avant, que Mérida pour le coup remette en cause pas seulement le fait qu'il y a un mariage arrangé comme Jasmine par exemple, mais vraiment le fait de se marier. Elle s'en fout, elle veut pas d'un homme en fait.
Ouais. Et le personnage de la mère aussi, c'est un personnage qui forcément a suivi les règles toute sa vie et là cherche à faire en sorte que sa fille puisse être dans les clous aussi, quoi, qu'elle puisse s'en sortir dans la vie. Et bah forcément, il y a un moment donné où ancienne génération et nouvelle génération s'entrechoquent et ne sont pas d'accord, ne se comprennent pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la mère, c'est pas un personnage qui est mauvais, c'est pas quelqu'un qui cherche volontairement à faire du mal à sa fille, mais les choses font qu'elles ne s'entendent pas et qu'il va falloir qu'elles apprennent à avancer ensemble, à se comprendre pour trouver une solution et que tout s'arrange. Et c'est le discours que va faire Mérida où sa mère va indiquer avec des mimes qu'est-ce qu'elle doit dire, qui va permettre de donner un sens à tout ça et de les faire s'entendre enfin et de recréer ce lien qu'elles avaient perdu.
Exactement, et ça parle de puberté, en fait, ça parle de remise en cause, que je pense a beaucoup parlé à beaucoup de petites filles qui ont regardé Mérida, et puis aussi, enfin, dans sa façon d'être, quoi, genre, Mérida, elle n'hésite pas à répondre, quoi, elle n'hésite pas à router, elle n'hésite pas à... Elle nous ressemble, en fait, Mérida, quoi, c'est une princesse qui nous ressemble.
Qui est authentique.
Exactement. Donc, Vaiana, donc, elle, pour le coup, Vaiana, c'est une princesse aristo, pour le coup, elle vient d'un peuple et tout, c'est elle, la princesse, mais... Vaiana, on sent qu'elle gouverne un peu son peuple, mais de manière très astucieuse. Elle répare et tout, débarque, elle a toujours des bonnes idées, tout. Et elle, pour le coup, elle veut aller de l'autre côté. Et quand elle va sauver son peuple, voilà, elle aspire à plus. Et bah pareil aussi dans l'animation, Vaiana est un peu grosse, elle marche un peu de manière décontractée et tout. Elle est pas du tout dans la douceur et tout qu'on avait avant. Et j'aime bien parce que la grand-mère aussi, encore une fois, c'est un personnage qui comprend Vaiana et c'est elle qui lui dit qu'il faut qu'elle accomplisse sa quête.
Oui.
Et Vaiana sauve son peuple. Elle veut accomplir sa quête pour son peuple. Et elle va vraiment aller de l'autre côté de la mer, contrôler l'eau. Enfin, l'eau la contrôle et tout. Il y a encore une fois ce côté très écoféministe qu'on avait. Mais là, c'est beaucoup plus... c'est pas dans la douceur, c'est beaucoup plus dans le côté « Ouais, je suis courageuse et je vais le faire, quoi. » Donc, ouais.
Ouais. Et puis, oui, forcément, elle va, elle aussi, aller de l'avant pour atteindre un objectif. Et puis, il y a cette relation avec Maui qui va être tout à fait amicale, voire fraternelle, assez intéressante. Et il va lui faire cette petite réflexion comme quoi elle est une princesse Disney car elle a un animal de compagnie, etc.
Une robe aussi, ouais.
Voilà, une robe. Et ça, c'est assez intéressant parce que, je trouve un peu plus subtilement, ça met le parallèle entre les anciennes versions des princesses, qui elles étaient, oui, vraiment avec le petit animal de compagnie, le sidekick, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui était omniprésent.
Ouais, dans beaucoup de princesses Disney, il y a le petit animal de compagnie, ouais, c'est
qui
vrai.
Qui est plutôt mignon, rigolo, et qui va accompagner la princesse dans ses aventures. Et bon, là, hey, je dirais pas que c'est forcément un personnage mignon, mais il est présent et il fait rire. Puis oui, la relation avec Maui. Maui, c'est un personnage très intéressant parce que, voilà, c'est, enfin, je dirais pas que c'est un loser non plus, mais voilà, il y a ce petit, cette
idée
de... C'est
un peu un gros douche, voilà. C'est un peu un mec relou, quoi, genre...
Qui a fait des erreurs, qui a des défauts, qui apprend justement à lui aussi s'habituer à lui-même, à s'apprécier lui-même parce qu'il a du mal à s'aimer, on dirait un petit peu. Et puis il va y avoir du coup cette relation avec Vaiana où ils vont devoir travailler ensemble sur le même bateau, voir un non ici c'est un bateau.
Ouais, c'est un bateau.
Bon voilà, ça va être pas évident mais c'est intéressant de voir justement l'évolution même si c'est un personnage donc féminin masculin ensemble, comment est-ce qu'ils évoluent sans forcément créer de relations amoureuses dans
l'histoire. Exactement, ils finissent pas ensemble à la fin alors qu'ils ont totalement la même dynamique que Flynn et Réponse, Tiana et Naveen, ils se charrient beaucoup tout ça machin et en fait à la fin ils sont amis.
Ouais.
Et ça, c'est chouette, ça fait du bien. Et en plus de ça, la méchante dans Vaiana, donc c'est le démon Teka, qui en fait est la déesse, je crois que c'est...
Tefiti,
voilà. Ouais. Et en fait, c'est encore une fois, un peu comme dans La Reine des Neiges, le démon est intérieur.
C'est ça.
Le démon et la méchante, c'est parce que c'est à l'intérieur d'elle-même qu'elle est méchante.
En fait, on a retiré à Tefiti ce qu'elle possédait de plus précieux, donc son cœur. Et ça, forcément, ça la change totalement, en fait. Et c'est assez intéressant, ça pourrait donner une métaphore aussi, le fait de retirer quelque chose à quelqu'un. Et forcément, ça va changer radicalement la personne tant qu'elle n'aura pas pu retrouver cet élément d'elle qui est primordial. Et c'est un personnage très intéressant, Tefiti, parce que c'est enfin quand les choses auront été remises à leur place et pardonnées que un nouveau cycle pourra être lancé et que les choses pourront réaller de l'avant.
Exactement. C'est vrai que c'est un méchant intéressant là-dessus. Et je trouve que c'est aussi une métaphore un peu de la pollution, enfin littéralement, tu vois, qui a tout gâché et tout, qui a créé le démon. Donc pareil, encore une fois, écoféministe et tout. Enfin, on peut revoir ça parce que c'est Vaiana qui arrive avec sa féminité et qui va tout sauver. Tout en étant assez badass aussi parce qu'elle se bat avec les pirates et tout, elle va sauver la petite poule Heihei, elle va souvent sauver aussi Maori avec sa, elle est très maligne aussi, tu sais, dans la grotte avec le, je sais plus comment il s'appelle, le hameçon là qui vient récupérer avec le crabe géant, bah là elle va un peu le manipuler, le crabe et tout, pour récupérer le,
elle est astucieuse,
voilà, elle est intelligente, elle l'envoie beaucoup chier je trouve Maui, enfin voilà, elle se laisse pas faire, ouais vraiment elle a ce côté très elle s'émancipe beaucoup et elle se laisse pas faire quoi, vraiment c'est très intéressant.
Ça c'est vrai.
Encanto. alors il y a Donc là, on a, je trouve, trois princesses, vraiment.
Qui ne sont pas vraiment des princesses, mais c'est des personnages féminins,
c'est vrai.
Héroïnes.
C'est vrai, comme Encanto, c'est une communauté, en fait. Ils vivent en communauté, c'est une famille. La famille Madrigal, c'est Encanto, la famille, fantastique famille Madrigal, d'ailleurs. C'est pas le film de Mirabel, quoi. Et en fait, là, c'est vraiment bien, parce que Mirabel, c'est le vilain petit canard. C'est la méchante, un peu. C'est pas du tout... La princesse, en fait, c'est Isabella. C'est pas Mirabel, mais on parle pas... Isabella, on parle de Mirabel. Donc on met en avant le fait que c'est là le vilain petit canard, la personne rejetée. Puis en fait, Mirabel, elle est pas trop aimée dans sa famille, elle est un peu rejetée et elle va, au lieu de gagner le pouvoir et d'être mise en avant, et ben en fait, elle va être la méchante qu'on va diaboliser, qui va un peu créer le désordre. Mais c'est grâce à sa différence en fait qu'elle va réussir à comprendre les autres, mais aussi grâce à ses a priori qu'elle a sur les autres.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, c'est la différence, elle la connaît. Mirabel sait qu'elle a une différence avec sa famille. Elle a conscience et elle l'accepte. Elle s'aime telle qu'elle est. Elle a pas de souci avec ça. Elle vit avec, même si... En fait, c'est vraiment par rapport à sa famille que, c'est, que ça devient compliqué parce qu'elle ressent la pression des autres qui lui rappellent constamment qu'elle est différente. Et ça, c'est vraiment compliqué parce que elle a tout à fait le droit de l'être et si elle arrive bien à vivre avec, c'est son affaire, mais il y a toujours ces petits commentaires et ces petits pics qui font que on la ramène toujours à ce qu'elle est, le fait de ne pas avoir de dons et d'être une personne qui est outsider, beaucoup moins intéressante
que
le reste de sa famille.
Mais après aussi, ce que j'aime beaucoup moi dans Encanto, c'est que du coup, on la ramène à ça, mais c'est elle aussi. Elle se sent tout le temps inférieure à Isabella et à Luisa, mais quand elle va leur parler, il y a la chanson Sous les apparences qui est genre vraiment incroyable, qui a beaucoup parlé, je pense, à beaucoup de personnes sexisées, parce que ça parle de charge mentale. Luisa, elle en a marre, en fait, de son pouvoir qui la pousse à tout faire, à tout le temps tout faire, et elle est très anxieuse. Et Isabella, elle se rend compte qu'en fait, elle en a marre d'être parfaite, elle veut pas se mariée et tout, et c'est grâce à la communication que Mirabel a eue avec ses sœurs qu'il y a vraiment aussi une sororité où elles se font des câlins et tout, c'est vraiment très mignon, et qu'en fait elle se rend compte que ses sœurs elles sont pas si grosses que ça, elles sont peut-être pas différentes, elles sont peut-être acceptées, mais elles sont pas si grosses que ça, elles ressentent beaucoup de pression sociale, une pression que toutes les princesses ou que toutes les femmes, personnes sexisées ont ressenti, donc je trouve ça vraiment très beau en fait que ça soit montré comme ça par la relation entre sœurs. Mirabel apprend des choses et elle apprend des choses aussi aux spectateurs en disant d'avoir des pouvoirs, d'être parfaite, c'est bien beau, mais derrière, on ne sait pas ce qui se passe, quoi.
C'est vrai que les personnages, même visuellement, c'est assez intéressant. Bon, forcément, Mirabel n'est pas la petite fille parfaite. Voilà. Bon, même elle a des lunettes. Bon, de là à dire que c'est un défaut. Voilà. Mais c'est quelqu'un qu'on a rarement vu en tant que héroïne. Et c'est très intéressant de suivre un personnage qui, justement, est présenté comme ça. Et on a aussi Luisa, du coup, qui est une femme forte, avec des muscles, mais qui est féminine. Et qui a cette dualité là où on peut très bien être quelqu'un de fort et ne pas être un garçon manqué, être quelqu'un de féminine, assumer sa féminité, etc. Et puis il y a le personnage d'Isabella aussi qui est un personnage que je trouve très intéressant parce que c'est le personnage qu'on aurait habituellement mis à la position de Peste et de la petite pimbèche, celle qui au lycée va harceler et brimer les autres élèves. Et là, c'est un peu le cas aussi, dans le sens où elle va être désagréable avec sa sœur, toujours avoir une petite pique ou une petite remarque à lui faire, lui montrer qu'elle est inférieure à elle, etc. Mais c'est quand même quelqu'un qui a un bon fond, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'elle ne se comporte pas comme ça gratuitement, quoi. Elle a une pression aussi de toujours être parfaite, et donc elle remet cette pression-là sur les autres en reprochant à sa sœur de ne pas l'être. Et voilà, quoi, elle n'est pas comme ça parce qu'elle a envie d'être méchante. C'est pas une méchante.
Oui, c'est ça. Bah après, moi, je trouve quand même que Isabella pourrait être la princesse douce et parfaite des années 60 ou 90. Mais en fait, elle est un peu méchante. Et au final, on se rend compte que c'est pas tant une princesse si sympa que ça, quoi. Alors que Mirabel, qui n'est pas une princesse, est beaucoup plus attachante parce qu'elle est maladroite aussi, encore une fois. Elle a un peu du mal à se faire accepter et tout. Elle se fait beaucoup engueuler et tout. C'est un peu le vilain, vraiment littéralement un petit canard, et comme tu dis, elle a des lunettes, elle est un peu grosse, donc elle fait vraiment très authentique, un peu comme Rebelle. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir que pour une fois, le personnage qu'on mettait vraiment en avant, qui était toute skinny, toute parfaite, avec des beaux cheveux, soit un peu la méchante. Je trouve quand même que Isabella est un peu pas sympa, quoi. Genre, et aussi, ça on en reparlera si on fait un podcast sur les méchants Disney, mais le podcast, le personnage de Bruno, au final est aussi est aussi mis de côté en fait, et on pourrait croire que c'est lui le méchant, mais en fait il comprend Mirabelle quoi. Mm. C'est le seul personnage qui la comprend, et pareil, il y a pas de relation entre eux. Ça c'est chouette, c'est vraiment des personnages qui se comprennent, qui s'aiment mais de manière amicale, et en fait c'est lui le véritable gentil. Mm. Et les personnages qu'on croit gentils en fait sont eux les méchants, mais ouais, pas de manière très manichéenne en fait.
Ouais.
D'ailleurs, tout le monde est creusé, tu vois.
Ouais, c'est ça, c'est que tous les personnages dans la famille sont très intéressants à étudier, et je sais que même les pères de famille, donc ceux qui n'ont pas de pouvoir, ont tous les deux leur petit plus. Le père de Mirabelle, c'est un maladroit qui fait beaucoup de bêtises, etc. Mais il met toujours en priorité ses filles. C'est sa principale. C'est elle qu'il va toujours mettre en avant, quoi. C'est voilà. Donc quand il voit que Mirabelle est dans le pétrin, il va avant tout chercher à l'aider plutôt que d'aller dire à toute la famille quel est le souci, ou il va pas la trahir, quoi.
C'est vrai.
Et même du coup, alors je sais plus son nom, mais le mari de Peppa.
Ouais, moi aussi.
Qui lui est adorable aussi.
Ouais.
Tu vois, c'est vraiment un personnage qui est vraiment là pour sa femme, qui fait attention à elle, il sait qu'elle est angoissée, il sait que voilà, ça, c'est pas évident pour elle tous les jours, donc il va toujours être là pour la calmer, pour la soutenir. Et vraiment, c'est agréable de voir des personnages masculins comme ça, qui soutiennent leur femme et qui sont soutenus par leur femme. Voilà, il y a cette mutualité-là qui fait du bien à voir.
Après, je trouve ça aussi intéressant parce que tu vois, à la fin de Encanto, on peut remarquer qu'en fait, au final, le super pouvoir de Mirabelle, c'est d'être dans l'empathie, c'est de comprendre les gens. Mmh. C'est que comme par sa position où elle a été mise de côté, elle a du coup beaucoup de compréhension envers les autres, et du coup, c'est grâce à sa compréhension, à son ouverture un peu, que du coup, elle va écouter Louisa et Isabella et qu'elle va leur faire un câlin en disant je comprends en fait ce que tu ressens, parce que je vis ce que tu ressens par rapport à mon pouvoir d'être dans l'empathie, parce que je sais ce que c'est d'avoir de la pression à être comme tout le monde, parce qu'elle, il faut qu'elle ait un pouvoir. Mmh. Mais ce que tu disais, du coup, sur les personnages, en fait, ils sont tous développés si bien qu'à la fin, on n'a pas besoin d'une résolution, tout le monde est en couple et tout le monde est heureux. Non, la résolution, c'est tout le monde s'entraide, on va reconstruire la maison, et l'amour, c'est familial.
C'est ça.
Donc, c'est vraiment un nouvel amour. Là, c'était l'amour entre sœurs avec la Reine des Neiges, ouais, et tout, mais là, c'est l'amour de tout le monde ensemble, on se comprend et voilà, on s'aime, quoi.
C'est ça, ouais, c'est apprendre à se comprendre, apprendre à accepter les uns et les autres avec leurs différences, et ne pas mettre quelqu'un de côté ou d'exclure un membre de la famille pour ce qu'il est. Et du coup, ça peut avoir beaucoup de métaphores sur des événements ou des situations de la vraie vie. Et puis, ne pas avoir de pression. Donc, Louisa, voilà, qui ne doit pas être forcée à travailler constamment parce que c'est la personne forte de la famille. Et Isabella, qui ne doit pas être forcée à se faire marier parce que c'est la jolie fille de la famille.
C'est ça, tout ça c'est construit, tout ça c'est pas vrai, tout ça ça crée de l'anxiété, de la pression vraiment, et ça crée aussi beaucoup de remises en question. Enfin, Isabelle, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière mon ego et tout, qu'est-ce que je suis d'autre en fait dans la chanson, vraiment, et c'est grâce à Mirabelle qu'elle comprend tout ça. Donc oui, voilà, c'est vraiment, mais qu'est-ce qu'on est de plus en fait que juste des personnages. Et encore une fois, moi je trouve que c'est encore une sorte on tord le cou à cette idée qu'avant les princesses Disney étaient définies par leurs personnages, quoi.
Ouais.
Donc c'est beaucoup plus creusé, comme on l'a dit. Ouais.
Et tous les personnages aiment leur famille tout autant. Même Bruno et Mirabelle, qui sont les plus exclus, le disent eux-mêmes qu'ils aiment leur famille et ils savent que leur famille, c'est des personnes bien. Et juste, les situations ont fait qu'ils se sont pas compris, quoi.
C'est ça.
Et d'ailleurs, c'est la grand-mère qui met ça beaucoup en avant. Mm-mm. Parce qu'elle, elle est vraiment dans son idée. Elle a vécu des choses dans sa vie. Elle a des traumatismes, des événements en souvenir qui font qu'elle va pas accepter certaines situations ou certaines personnes aussi bien que d'autres. Et ça va mettre une pression et une difficulté en plus, et un poids dans la famille qui est important d'être libéré et qui peut faire écho à pas mal de...
C'est ça. Et à la fin, en fait, tout le monde réfléchit à sa condition, quoi. Mm. C'est pas genre, il y a un méchant, il y a un gentil. C'est puis ça. Après, on en a pas trop parlé, mais Encanto, Vaiana, Tiana, c'est des personnages racisés. Mm. Et du coup, ça fait du bien de voir une autre représentation des princesses, quoi. Ouais. Là, Encanto, toutes les princesses sont racisées. Et tu vois, Louisa est grosse, Mariabelle, elle a des lunettes. Enfin, en fait, les personnages sont beaucoup plus variés dans leur physique aussi, dans l'animation. Ah, c'est vraiment différent et ça fait du bien, du coup, de voir autre chose, quoi, de voir d'autres représentations. Ouais. En plus, Encanto, c'est un des Disney princesses qui a été réalisé par une femme, qui est d'origine du coup colombienne aussi, donc ça fait du bien aussi. Voilà,
ça c'est important.
Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify. N'hésitez pas aussi, si vous avez des idées de podcast, à me les partager sur le compte Instagram Reine des Terres, à m'envoyer un mail à reinedesterrespodcast@gmail.com. J'espère que vous avez apprécié la personnalité de Julie aussi.
Merci de m'avoir invitée.
Mais pas de soucis. Et regardez les Disney, appréciez les Disney. En vrai, ça va, c'est pas si condamnable que ça. On aime beaucoup. Ça nous fait rêver, ça nous fait pleurer. On adore le marketing Disney, ça marche bien. Et je voulais quand même rappeler qu'on n'est pas des professionnels quand même. Que, voilà, ce qu'on a dit, ça part de notre avis, notre analyse, mais c'est pas une analyse... non plus, on n'est pas en cinéma, non plus école de cinéma supérieur, mais voilà, on fait avec nos connaissances et tout. Donc n'hésitez pas à envoyer un message, du coup, si jamais vous avez des choses à redire sur tout ça, je serais très heureuse d'en parler avec vous. Et je vous dis à bientôt, au revoir Julie.
Merci beaucoup, à bientôt. Pression qui fait pip 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 comme le bruit d'une bombe. Ta grande sœur porte le poids de l'honneur. Pour la famille, je peux encaisser la douleur. Je peux très bien tenir sans m'écrouler, sans plier. La pression qui très vite.